Chers auditeurs et auditrices d'Essidio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission humanitaire Fagoudirène. C'est parti depuis le samedi 26 juillet dernier pour les activités de la campagne nationale de reboisement. Le lancement officiel s'est déroulé au parc des Sofas de Koyambougou dans la commune rurale de Dogodouma, sous la présence du Premier ministre Abdoulaye Maïga, une occasion de planter des pépinières pour restaurer des écosystèmes dégradés et favoriser la biodiversité. À la faveur donc de cet événement, nous recevons Tidjane Sangaré, directeur général de la Société de gestion des concessions forestières et fauniques de Tam Voyage. Avec lui, nous tenterons de savoir comment planter un arbre. Un arbre peut-il réussir sur tous les sols? Comment se fait le suivi des plans, entre autres questions? Nous irons aussi à la rencontre des déplacés internes qui ont décidé de travailler pour se prendre en charge. Quelles sont leurs motivations? On en parle. Enfin, dans notre rubrique artistes invités de la semaine, nous braquons nos projecteurs sur Fakou Libaly, guitariste, auteur, compositeur et arrangeur. À la présentation, je suis Aïssata Diarra. La mise en onde est assurée par Sidou Ndao. Bienvenue à toutes et à tous dans Fagoudirène. Le magazine humanitaire Fagoudirène du jour s'intéresse aux femmes déplacées en situation de handicap, qu'elles soient atteintes de déficiences visuelles, motrices ou d'autres formes de handicap. Ces femmes vivent majoritairement dans une grande précarité sur les sites des déplacés. Malgré ces conditions difficiles, certaines parviennent tant que mal à subvenir à leurs besoins. Les services de développement social jouent également un rôle essentiel dans leur accompagnement et leur épanouissement. Une réalisation de Fatoumata Kodo avec le concours de nos correspondants.
Installée depuis 6 ans sur le site des déplacés à Faladje, à Bamako, Mariam Boulobari a fui l'insécurité qui sévit dans la région de Koro. Aujourd'hui, elle tente de reconstruire sa vie malgré les difficultés liées à son handicap. Mariam a perdu l'usage de sa jambe gauche à l'âge de 13 ans à la suite d'une maladie. Nous la retrouvons sous sa tente, assise sur une chaise plastique, son bâton de marche à portée de main.
Je suis malade, je marche avec une canne. J'ai de l'eczéma, une maladie de la peau que j'ai attrapée quand je suis arrivée ici. Je crois avoir de la gastrite également. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit moi-même, mais c'est mieux, parce que quand on tombe malade, on nous soigne.
Malgré ses handicaps, elle gère un petit commerce pour subvenir à ses besoins et elle s'intègre bien dans la communauté.
Je cherche des trucs à vendre comme le thé, le sucre, le savon, entre autres. C'est mieux que rien. Tout ce qui arrive comme don sur le site, j'ai aussi ma part dedans. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai bénéficié de beaucoup d'aide.
Sa fille Bébé Sangaré joue un rôle clé dans leur quotidien. Elle assure les tâches du foyer et veille sur sa mère malade.
Quand je me réveille le matin, je lui donne de l'eau afin qu'elle prenne son bain. Je lui fais à manger, je lave ses linges sales et je lui fais également du thé. Je fais ce que je peux pour elle, que les gens aient une pensée pour eux, parce qu'ils n'ont aucun moyen et ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Elle gagne dans ce qu'elle fait, qu'elle redouble d'efforts, parce que comme le dit l'adage, il n'y a pas de sot métier, mais plutôt des sottes personnes. Je suis dans des difficultés aussi, mais je me débrouille quand même pour lui venir en aide. Des fois, il arrive qu'elle tombe malade et on est souvent obligé de commander.
À Ségou, une autre déplacée interne vit une réalité plus contraignante. Indourou Diallo est malvoyante et dépend entièrement de l'aide des autres.
Mes larmes coulent constamment et couvrent ma vue. J'ai des difficultés à avoir à manger. J'ai aussi besoin de médicaments. Je souffre beaucoup. Se déplacer même est un problème. Tant que le problème lié à ma vie n'est pas soigné, c'est difficile pour moi.
Un peu plus loin de Bamako, à Mopti, sur le site de Sokoura, Maïma Sissé, également en situation de handicap, a bénéficié d'un vélo pour améliorer sa mobilité. Mais pour aller plus loin, elle souhaite obtenir un appui financier afin de lancer une activité génératrice de revenus.
Je n'ai pas l'habitude de bénéficier de dons, mis à part les vélos. Tout ce qui a trait à la nourriture, à l'argent, je n'en ai pas reçu. Par ailleurs, je suis intéressé par toute aide, que ce soit la nourriture, de l'argent, des motos, des nattes, des couvertures. Je n'en ai pas eu non plus. Je veux qu'ils m'aident à avoir une activité génératrice de revenus, que ce soit du côté du commerce ou de l'embauche.
Ces femmes, souvent en marge des dispositifs d'assistance, bénéficient cependant de certaines initiatives du développement social. Elles sont intégrées à des programmes de formation ou d'appui communautaire qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Tchemoko Traoré, coordinateur de gestion des sites de déplacés de Bamako et environ.
En tout cas, quand tu es handicapé, déjà, il y a une différence, non, naturellement. Mais dire qu'il y a des trucs d'exclusion ou feinté, non, non, non. Par exemple, je prends l'exemple sur les formations, la formation en esthétique, surtout les femmes, elles participent à ça. Il n'y a pas d'exclusion en fait.
En plus de vivre dans des conditions précaires sur les sites des déplacés, ces femmes doivent faire face à leur handicap, souvent sans accompagnement adéquat. Elles ont besoin d'un appui humanitaire ciblé, à la hauteur de leur double vulnérabilité, plaide un responsable associatif.
Vous venez d'écouter un magazine réalisé et présenté par notre reporter Fatoumata Kodjo sur les femmes déplacées en situation de handicap. Merci à Fatoumata Kodjo et à nos correspondants. Comme annoncé au sommaire, les activités de la campagne nationale du reboisement ont été lancées le samedi 26 juillet dernier au parc des Sofas de Koyambougou dans la commune rurale de Dogodouma par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Pour cette 31e édition, l'objectif est de planter plus de 41 millions de plan, reboiser plus de 31 000 hectares de terre et récupérer plus de 385 000 hectares de terre dégradée selon les autorités. Le thème de cette édition est reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Qui est mieux qu'un spécialiste du domaine pour parler de ce sujet? Nous recevons donc Tidjane Sangaré, directeur général de la Société de gestion des concessions forestières et fauniques des temps voyage. Bonsoir Monsieur Sangaré.
Bonsoir Madame Aïcha.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
À tout le plaisir à toi.
Alors vous venez de suivre un reportage sur les femmes déplacées en situation de handicap. Alors est-ce que vous avez un commentaire sur ce reportage?
Je tiens à vous remercier pour avoir penché votre reportage sur ces femmes qui vivent dans des situations difficiles. Être sur un train inconnu et venir vivre, s'adapter par rapport à un contexte qui n'est pas facile et développer des activités, franchement, c'est difficile. Mais vous avez donné l'opportunité à toute la nation de voir comment ces gens la vivent dans leurs conditions difficiles et comment s'est fait l'accompagnement aussi. Je tiens à vous remercier. Je pense réellement que ça va être une opportunité pour donner plus de visibilité et d'accompagnement possible, non seulement de la part des autorités, mais aussi toutes les organisations non gouvernementales qui ont des soucis d'accompagner ce genre de personnes.
Voilà, merci beaucoup pour cette réponse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons la réaction du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au lancement des travaux de la campagne nationale de reboisement.
Les conséquences de la déforestation sont les suivantes. Essentiellement, l'avancée du désert, la destruction de notre biodiversité et la dégradation des terres. À cela, nous pouvons également ajouter les conséquences sanitaires et les conséquences économiques. Différentes initiatives sont en cours, à savoir la Grande Muraille Verte, également le programme de restauration des terres dégradées et bien entendu d'autres initiatives consistant à procéder à des opérations de reboisement. Si nous voulons reboiser, il faut deux actions simultanées, planter beaucoup plus d'arbres et surtout suspendre, voire arrêter de détruire notre forêt.
Alors, M. Sangaré, vous venez d'écouter également l'intervention du Premier ministre. Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Ça montre réellement que les autorités ont conscience du phénomène de dégradation, ont conscience qu'il est nécessaire que l'État s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires à la matière pour qu'on puisse non seulement conserver, préserver et protéger ce patrimoine naturel, mais aussi adopter des comportements de bons citoyens en envers des activités de reboisement, de restauration de ce patrimoine.
Alors, revenons à notre sujet. Quel est le bienfait du reboisement sur notre environnement?
Merci madame pour la question. Je pense réellement qu'il faut connaître l'arbre d'abord. L'arbre et son importance sur le plan national et sur le plan international. Parce que l'arbre c'est un don de Dieu. Parce que nous autres religieux, on parle que l'arbre c'est un don de Dieu. Parce que ça a des potentialités. L'existence d'un arbre c'est synonyme à une vie apaisée, c'est synonyme à une meilleure condition de vie, à l'adoption de plaisir, profit, au bénéfice de l'homme et de toute la biodiversité. Alors, comme on le dit, si un pays dont la superficie n'atteint pas 15%, je parle de la superficie boisée, n'atteint pas 15% de la superficie globale. Ça veut dire que ce pays ne peut pas bénéficier d'une pluviométrie irrégulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays peut être soumis à des effets de changement climatique, à d'autres phénomènes de déplacement qui peuvent même amener d'autres crises à l'intérieur de ce pays. Mmh. Alors, par rapport à votre question, surtout on parle sur le plan national, il est essentiel que les Maliens apprennent à planter des arbres, adopter des comportements qui vont dans le sens de la protection des arbres, qui vont dans le sens de la restauration des espaces complètement dégradés. Parce que la responsabilité de tout un chacun est interpellée pour qu'au moins qu'on puisse conjuguer les efforts, aller dans le sens de la consolidation des espaces complètement dégradés à travers des activités de reboisement. Alors le reboisement, c'est une activité qui permet non seulement à l'individu, depuis le départ, de faire des pépinières d'abord, et alors aller vers des sites complètement dégradés et en allant vers des activités de plantation.
D'accord. Alors, comment entretenir les arbres? Comment se fait le suivi des plants de façon générale?
Bon, parce que comme on le dit, un arbre, c'est comme un individu, c'est un être vivant. Mm-hmm. Alors, comme on le dit, un bébé, quand on a l'opportunité d'avoir un bébé, on l'entretient depuis la base. L'arbre aussi, c'est ça. Mm-hmm. Il faut entretenir, il faut, comme on appelle, arroser à temps nécessaire et lutter contre tous les objets ou bien tous les instruments qui peuvent détruire cet arbre, il faut les écarter de l'arbre en question. Mmh. Alors, il faut entretenir le matin et le soir. Faire le suivi, c'est protéger l'arbre contre les animaux, contre les feuilles de brousse, contre, contre d'autres phénomènes qui peuvent porter atteinte à la vie même de l'arbre en question. Alors, il faut, si vous voulez, il y a des gens qui installent des corsets, des grillages autour de l'arbre. Ouais. Pour que l'arbre ne soit pas, comme on appelle, sujet de piétinement, ne soit pas sujet de dégradation. En ce moment, l'apport de l'eau est essentiel parce que l'arbre n'a pas besoin d'autre chose que de l'eau. Parce que quand on apporte l'eau quotidiennement, ça peut même être un facteur pour augmenter la croissance de l'arbre. Alors maintenant, l'apport des autres engrais, ça peut être un complément nutritif pour permettre à l'arbre de s'agrandir. Mais ce qui est essentiel quand même, c'est la protection à travers des corsets ou bien à travers d'autres objets quand même pour mettre l'arbre à l'abri de toute agression. Tous les arbres ont besoin d'être protégés et entretenus.
Est-ce qu'il est conseillé de planter n'importe quel arbre sur n'importe quel sol? Autrement dit, quel arbre pour quel genre de sol?
Bon, pour arriver même à la plantation des arbres, d'abord, il faut faire l'étude du sol. Et cette étude du sol permettra de savoir quel est le type de sol qu'on a en face. Est-ce que c'est un sol profond? Est-ce que c'est un sol caoutchouc? Ou bien est-ce que c'est un sol sablonné? Alors, ces différentes études permettent de savoir quel type, parce qu'il y a des arbres qui ont la facilité de développer, comme on appelle, un système racinaire. Alors, s'il y a des arbres qui n'ont pas cette facilité, si on plante un arbre dont le développement du système racinaire se fait de façon difficile sur un sol argileux, ça veut dire que l'arbre est appelé à mourir. Mmh. Alors, il y a des arbres qui peuvent réussir dans d'autres zones ou bien dans toutes les conditions, dans d'autres sites aussi qui soient difficiles. Alors, il y a ces arbres-là qui sont là. Mais maintenant, pour ce qui concerne le type d'arbre, pour quel type de sol, moi, je pense réellement, avant d'aller vers la plantation, il faut faire l'étude du sol, qui est tout à fait nécessaire. Parce que tous les arbres ne peuvent pas réussir sur tous les sols aussi. Ce qui est très, très important à souligner.
Merci, M. Sangaré, pour ces premières réponses. Parlons à présent des personnes déplacées qui se sont démarquées des autres en prenant à main leur vie dans la rubrique « Modèle de réussite ». La rubrique « Modèle de réussite » d'aujourd'hui nous amène à Yoroso, à la rencontre de deux déplacés, un homme et une femme. Ces deux personnes déplacées qui n'ont pas voulu s'asseoir et attendre des aides. L'homme, en plus d'avoir un champ à cultiver, a pu ouvrir sa propre boutique où il vend divers produits. Quant à la femme, elle fait la lessive dans les quartiers depuis plusieurs années. Pour ces personnes, c'est toujours un plaisir de recevoir de l'aide extérieure. Toutefois, travailler et réussir reste une fierté. Notre correspondant Ali Haïdara depuis Yoroso est allé à la rencontre de ces personnes déplacées. Suivons ensemble.
Kienou est un déplacé à Yoroso, venu de Boura depuis près d'une année. Il y a 3 mois environ, il a ouvert une boutique au quartier Milionki. À côté du commerce, il possède un champ qu'il cultive. À l'en croire, il s'en sort bien avec ses deux activités. Aujourd'hui, il n'a qu'une philosophie. continue à travailler pour avoir son indépendance, car, dit-il, rien ne vaut le travail.
Je travaille et je cultive aussi mon champ. Je fais les commerces et c'est rentable car je parviens à subvenir à mes besoins. C'est le travail qui permet à l'homme de vivre dignement. Lorsqu'on fait quelque chose de ses 10 doigts, Dieu nous aidera pour le reste. C'est vrai que le travail ne permet pas d'être riche, mais il assure l'indépendance.
Fouseni Kone est un voisin de Kienou. Il témoigne du courage qui anime ses déplacés. Selon lui, M. Kienou est un modèle parmi les déplacés.
Depuis son arrivée, il a eu à nous rapprocher et il s'est dit qu'il a été déplacé faute de l'insécurité. Après, il a construit au moins une maison auquel il a avec ses 2 femmes et ses enfants. Et aussi, il a ouvert une boutique d'hiver parce qu'il vend les boissons, tout, lait, ainsi aussi de le riz, ainsi que les produits agricoles actuellement où nous sommes. Et puis, ces produits agricoles même sont vraiment, les prix sont abordables par rapport au marché. Donc, franchement, je peux dire que l'un des déplacés qui s'est battu, franchement.
Fatoumata Tessougué est aussi une déplacée venue de Bankas il y a 10 ans. L'avant-dière de son état, Fatoumata se bat pour être un exemple pour ses enfants.
Je fais de la lessive moyennant de l'argent. Je peux gagner 2000 francs jusqu'à 3000 francs par jour. Ça me permet d'acheter des habits et des chaussures pour mon enfant sans problème.
Une de ses clientes ne lésine pas sur les qualificatifs pour décrire Fatoumata. Brave, résiliente, Fatoumata doit inspirer d'autres déplacés, dit-elle.
Fatoumata, nous on l'appelle chaque jour. Elle peut faire toute la journée pour laver nos habits. Des fois on la donnait 2000, des fois on la donnait 3000. En tout cas, elle rit avec tout le monde. Elle n'a pas de problème. Je peux dire aux autres déplacés, il n'y a pas de sous-métier. Je pense qu'il faut faire quelque chose, même si on gagne 1000 francs par jour.
Pour ces déplacés, ce statut ne doit pas être un frein pour se prendre soi-même ainsi que les siens en charge. Yoroso, Ali Haïdara pour Studio Tamani.
Merci à notre reporter Ali Haïdara depuis Yoroso. Si vous venez de nous capter, sachez que vous écoutez l'émission humanitaire Faboudirène. Et aujourd'hui, nous parlons du reboisement. Pour un rappel, nous sommes avec Tidjani Sangaré, directeur général de la Société de gestion des concessions forestières et fauniques des Tam Voyage. Nous continuons avec l'émission. Alors, Monsieur Sangaré, les campagnes de reboisement sont-elles nécessaires dans un contexte de déforestation?
Merci Aïcha pour la question. Une campagne de reboisement, c'est un signal, c'est une annonce, c'est une communication à l'endroit de l'ensemble de la population comme quoi il est temps d'aller vers des activités de reboisement. Penser à restaurer nos forêts à travers des activités de reboisement. Mais quand on regarde le contexte malien, ça c'est un langage que ma personne, quand on regarde le contexte malien, il est souhaitable qu'on arrive à préserver le pays de forêt qu'on a à travers des actions de protection, à travers aussi l'adoption des périodes moratoires, c'est-à-dire l'interdiction d'accès aux forêts. Les forêts peuvent régénérer d'elles-mêmes sans l'apport de l'homme. Mais aujourd'hui, le phénomène de déforestation est devenue extraordinaire, atteint des seuils très très élevés. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes de cette déforestation. Arrêter complètement toutes les activités qui concourent vers la déforestation, au lieu d'aller vers des activités de reboisement. C'est bien parce que quand on regarde le contexte malien, selon certains rapports de la Direction générale des eaux et forêts, chaque année, le Mali perd plus de 100 000 hectares. Alors que nous resterons moins de 50 000 hectares. Alors le pourcentage, quand on regarde le ratio, ça veut dire que c'est très élevé. Et je pense réellement qu'il faut s'attaquer aux causes de la déforestation, arrêter toutes les formes de menaces que les forêts subissent pendant 5 ans, 10 ans. Et on va voir que tout ce qu'on investit dans la communication en termes de lancement de la campagne peuvent être déployés, voire même orientés vers des activités de protection qui concourent vers la restauration. C'est difficile, mais quand même c'est bien aussi qu'on lance un appel à l'ensemble de la population pour qu'on puisse prendre conscience que ce n'est pas une activité qui est dévolue uniquement à la Direction générale et encore moins au ministère de l'Environnement. C'est toute la population qui est interpellée. Notre survie dépend de nos forêts. Une fois qu'on se retrouve dans une zone moins boisée, ça veut dire qu'on sera soumis à des conséquences des effets du changement climatique. Parce que n'oubliez pas que les crises sécuritaires sont aussi liées à des problèmes liés à la mauvaise gestion de forêts, à l'exploitation abusive de nos forêts. Bon, une fois qu'on a des forêts protégées, préservées, je pense que ça peut être source d'apaisement, ça peut être source de profit pour l'ensemble de la population.
Alors, vous avez parlé des arbres, tous les arbres ont leur rôle dans l'environnement, mais quels sont les types d'arbres qui peuvent protéger notre environnement?
Généralement, ça dépend de la zone. Par exemple, vous allez voir au bord des rivières que les arbres épineux contribuent à lutter contre l'érosion. C'est-à-dire, ça fixe le sol et ça permet aussi à la rivière de ne pas être dégradé. Alors, par rapport aux autres zones, par exemple, quand on voit qu'il y a, vers le désert, il y a des vents violents, parce que c'est à moins d'arbres. Mm-hmm. Et généralement, on sait réellement que dans ces zones, c'est les arbres épineux qui existent beaucoup plus quelques palmiers. Mais je pense réellement que ça revient à la première question. Il faut étudier le sol et s'adapter par rapport, du moins se planter des arbres qui peuvent s'adapter par rapport aux conditions et la réalité du milieu. De façon globale, parce qu'il faut aussi aller vers la plantation des espèces endémiques, des espèces locales que nous avons chez nous et qu'on peut les valoriser et qui sont plus résistants, qui sont adaptés par rapport à notre climat et qui résistent par rapport à les aux conditions difficiles. Mais c'est très important de le savoir aussi que l'arbre contribue par rapport à l'augmentation de la nappe phréatique. Parce que là où il y a plus d'arbres, vous allez voir que les puits sont moins profonds que là où il y a moins d'arbres.
Ah, d'accord.
Voilà. L'arbre, c'est la vie en elle-même.
Oui. Alors, comment les ONG nationales et internationales peuvent-elles aider les autorités dans le reboisement?
Parce qu'il faut reconnaître que le Mali n'a pas assez de moyens pour faire face aux activités de restauration sur le plan national. Parce qu'on a une superficie très très grande, vous le savez au même titre que moi. Ça va être difficile que l'État puisse déployer assez de moyens pour couvrir toute l'étendue du territoire. Mais l'accompagnement des ONG, c'est une activité sollicitée, souhaitée et qui peut être un facteur de restauration d'une grande partie des superficies dégradées, dénudées complètement. Mais cela doit se faire avec l'accompagnement de la Direction générale des eaux et forêts. Il y a aussi des partenaires, parce que la Direction générale des eaux et forêts a des partenaires à partir desquels elle peut s'appuyer sur l'apport de ses partenaires aussi pour restaurer les espaces qui ont été déjà amodiés ou bien concédés à ses partenaires aussi. Les ONG aussi, je reviens avec les ONG, il faut que ça s'adapte par rapport à un plan global, parce que chaque année, il y a des activités de programmation annuelle par rapport aux activités de reboisement et d'autres activités qui est réalisée par la Direction générale des eaux et forêts. On se projette par rapport en termes de reboisement et en termes de restauration. Ces activités peuvent prendre en compte, ou bien la programmation peut prendre en compte les différentes campagnes organisées par les ONG en termes de sensibilisation, en termes de communication, en termes d'apport de moyens, en termes d'apport de matériel, même en termes de réalisation sur le terrain des activités de reboisement. C'est-à-dire ça permet de donner une certaine envergure. Même vous êtes en train de donner l'opportunité aux Maliens de comprendre réellement que les activités de reboisement sont nécessaires. Parce qu'à travers vos émissions, les Maliens se rendent compte qu'il est temps que chacun d'entre nous contribue à restaurer, contribue en termes de plantation, et soit aussi garant de la protection et de la préservation du patrimoine national. Parce que c'est un domaine qui appartient à l'État.
Merci beaucoup, M. Sangaré, pour ces réponses. Fabou Diren, ce n'est pas que des informations, mais c'est aussi le divertissement. C'est ce qui nous conduit donc à notre rubrique Artistes invités de la semaine. Dans la rubrique Artistes invités de ce soir, comme annoncé, nous recevons Fakoulibaly, guitariste, auteur-compositeur et arrangeur. Souvent son entretien avec Lala Diarra Touré.
Nous voilà enfin dans la rubrique Artistes invités de la semaine. Et ce soir, nous recevons Fakoulibaly. Il est guitariste, auteur, compositeur et arrangeur. Fa, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va, alhamdoulilah.
Nous sommes ravis de t'accueillir.
Ça me fait plaisir.
D'accord. Qu'est-ce que Fa peut dire aux auditeurs pour se présenter?
Je m'appelle Mémé Koulibaly de Fa.
D'accord.
Je suis né à Ségou.
Ségou, voilà. 4e région.
Oui.
D'accord. Et quelle est l'histoire, quel est le lien entre Fa et la musique?
La musique, c'est l'amour et puis c'est ma passion.
C'est la passion, oui, qui a guidé tes pas vers la musique.
C'est.
D'accord. Fa fait quoi? Il est instrumentaliste, il est quoi? Je te vois avec une guitare.
Et puis, je suis
auteur-compositeur, je suis soliste et je suis polyvalent.
Tu accompagnes les artistes, n'est-ce pas?
Plein.
Ok.
Beaucoup.
Des exemples?
Comme Farafina Lolo, comme Nampesajo, Bongana Maïga, Ami Wassidier, Urkia Traoulé, Urkia Fkone, comme Tiganja, c'est tout.
Oui, beaucoup d'artistes quand même, et de grands artistes de renom.
Entrée et extérieure.
D'accord. Mais est-ce que, en fait, il y a des difficultés dans ce que tu fais?
Si.
Lesquelles?
La musique, c'est un peu difficile comme c'est facile. C'est l'amour qui fait facile, mais en plein bleu, il y a des difficultés, il y a des problèmes de matériel, instruments,
okay.
Et puis il y a des problèmes de financement.
Financement.
Donc,
d'accord,
c'est pas facile.
Ok, c'est un métier passionnant, mais il y a quand même des petites difficultés.
Oui.
Est-ce que Fa a fait des compositions seul?
Si.
Ou est-ce que tu as toujours accompagné des artistes?
Si, si.
Ok, tu peux nous en dire.
C'est moi qui ai composé ma chanson et puis je chante.
Tu as chanté. C'est quoi le titre?
Le titre, c'est Moria.
Moria. Mais qu'est-ce que tu dis dans cette chanson-là essentiellement?
Aujourd'hui, entre amitié et collaboration, c'est difficile.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré cela? Tu as été trahi? On t'a blessé? En amitié?
On passe.
On passe.
Oui.
Ok, Fan n'a pas envie d'en parler, c'est pas grave. Mais est-ce que tu peux fredonner un tout petit bout de ce morceau-là?
Oui, oui, oui.
Ntenga maya keni mogolangolo yesa mogolangolo fe sigi mandi mogolangolo fe je mandi maya maya betinsa jujo magele de fulabanku siki magele bi fusabali je magele bi futimina jia siki magele bi fu hakile nyuma oh maya mukolangolo ka maya fitiri waleka maya.
Quelle belle mélodie, elle nous a emporté. Mais depuis combien de temps est-ce que Fa est dans l'art?
C'est pas aujourd'hui, depuis que moi j'ai 9 ans, 10 ans.
Tu as choisi ce chemin.
Oui.
Est-ce que les parents ne se sont pas interposés au début pour dire que non, c'est pas digne de nous?
Moi je suis Kloubal Segou, mais moi je suis Bobo.
Ok.
Moi je peux chanter, je veux faire tout.
Ok, donc chez vous c'est admis.
Voilà.
D'accord. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
On passe.
Enfin, ça je ne suis pas d'accord. On ne peut pas passer sur tout. C'est quoi?
J'ai parlé, ça va gâter beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai fait formation, j'ai guidé les chanteurs, mais après, j'ai eu beaucoup de trahisons.
Trahison.
Très.
Trahison de la part des collaborateurs, c'est ça?
Voilà.
Ok, je comprends mieux maintenant l'inspiration de la chanson. Là, comprends. Je comprends. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Fa est dans cette dynamique-là, en fait, d'innover son art? Est-ce que Fa a des projets futurs?
Mon projet, c'est un peu difficile parce que je ne peux pas faire ça sans fond. J'ai un festival et puis j'ai besoin de matériel, instruments, studio, sonorisation. Nécessaire. C'est ça.
Aujourd'hui, nous savons que tous les métiers sont difficiles. Qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse?
Ce que moi, je peux dire, la musique, là, c'est pas facile. Il n'y a pas de problème là-dedans.
Mais tu n'as jamais été à l'école pour apprendre ça?
Mon maître, il est décédé.
C'est qui? Il est décédé, c'était qui?
Il s'appelle Papa Damélé.
Il jouait de la guitare seulement?
La guitare seulement.
Ouais. Donc, c'est auprès de lui que tu as commencé à apprendre la guitare?
Si.
Ok.
Près à côté des Super Bitons.
Maintenant, je veux entendre Fa à la guitare.
D'accord.
T'es amoureuse, quoi.
Je ça, sais que tous les auditeurs sont amoureux. Ah. Oui, mais on est amoureux de quelque chose, forcément. Soit on est amoureux de l'argent, soit on est amoureux des belles voitures. Voilà, voilà que toi-même, tu es amoureux. Oui. Tu conviens avec moi.
Oui.
D'accord, on est presque au terme. Quels sons te plaisent? En fait, quelle composition t'as toi-même marqué personnellement?
Ae fara ka kerefe kumaula akana nena shiribla nyona sa ate fara ka kerefe kumaula akana nena shiribla nyona jerebi mana feminge u benide benna ya fokunga shiribe ya lake ya fokunga shiribe lusike ukabita bamako bwatu belani bwatila taka kadije sa oke ngikata ga ka bwatila talula no mi bwete jijele nungolo chauma dokone salemila Maloko ne bule mila meleke ni jini o kanukadi funeke ni jini o bere bene.
Le vrai amoureux dans ce studio, c'est bien toi, hein, Fa.
Non.
Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Nous te souhaitons tout le meilleur et à la prochaine.
C'était l'artiste invité de la semaine. Alors, Monsieur Sangari, est-ce que vous aimez la musique?
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la musique. J'écoute toutes sortes de musiques, surtout les musiques nationales. C'est une passion entre moi et la musique. Les musiques du Nord, j'aime beaucoup écouter.
D'accord. Ouais. Alors, revenons à notre sujet. Quel est le rôle de la population dans ces activités de reboisement?
Il faut que les gens sachent que le reboisement, ce n'est pas une activité de la Direction générale des eaux et forêts, encore moins le ministère, encore moins uniquement l'État. Parce qu'il faut reconnaître que chaque population a sa part de responsabilité. Je plante un arbre pour apporter un certain nombre de conditions de vie favorables dans mon environnement. On plante un arbre pour créer un microclimat. S'adapter par rapport au contexte dans lequel on vit peut se faire avec la plantation d'arbres. Il faut que les populations apprennent à planter des arbres, aller vers des activités de reboisement, d'autres activités de communication en termes de sensibilisation à travers les organisations de jeunes, bien les organisations des femmes aussi, pour qu'au moins que la population joue pleinement. Parce que toutes les activités sont orientées vers la population et dans l'esprit de la satisfaction générale de la population. Ça ne peut pas se faire sans leur accompagnement, sans leur implication. Si chaque Malien plantait un arbre chaque année, moi, on allait se retrouver avec un pays, on allait se retrouver dans un pays, j'allais dire côtier, et ça va jouer favorablement par rapport à notre pluviométrie et ça va créer des conditions de vie acceptables. Parce que l'arbre, c'est la vie.
Donc chacun doit s'y mettre.
Chacun doit s'y mettre.
D'accord. Merci, M. Sangade, pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société de gestion des concessions forestières et fauniques des Temps Voyage. À présent, allons à la découverte du proverbe de la semaine. La paix n'est pas simplement l'absence de la guerre, c'est la présence de la justice, disait Nelson Mandela. C'est le proverbe de la semaine. Écoutons Salia Damélé, traditionnaliste depuis Tominia, pour en savoir davantage. Il est au micro de notre correspondant Issiaka Koulibaly.
La paix n'est pas simplement l'absence de la guerre, mais c'est la présence de la justice. Il veut mettre ici l'accent sur la justice, parce qu'on ne peut pas parler de paix sans justice. La paix est le fruit de la justice. La justice, c'est le fait de donner à chacun son dû, donner à chacun ce qu'il mérite. Donc, comment est-ce que cette justice-là peut amener la paix? Parce que les gens pensent que quand il n'y a pas de guerre, on parle de la paix. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de guerre? C'est quand il y a la justice que la guerre est écartée. Sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'on doit corriger les gens de la même manière. Dans les familles, on doit corriger les enfants de la même manière. Et si on a plusieurs femmes, on doit, c'est-à-dire, les prendre de la même manière. Sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, les gens doivent être soignés de la même manière. Les femmes-là sont souvent marginalisées. Les enfants aussi ont leur part dans la justice. Quand il n'y a pas cette justice-là, vraiment la paix-là ne serait pas là. Et c'est la justice-là qui peut aussi créer l'absence de guerre. Une paix construite sans justice, ça serait une paix éphémère.
Merci à M. Salia Damélé et à notre correspondant Issiaka Koulibaly depuis Tominia. Une réaction sur ce proverbe, M. Sangaré?
Effectivement, c'est pour prévenir tout conflit, c'est pour prévenir la guerre. Quand il y a une justice saine, une justice équitable, bien servie, je pense que réellement ça peut être source d'apaisement, ça peut être source de paix. Alors, quand on parle de la paix, moi je pense que réellement l'apport de la justice est essentiel. Parce que ça adouce les cœurs, ça peut être une solution pour les futurs conflits. Alors, s'il y a une bonne justice, je pense réellement que la paix peut régner pour l'ensemble de la planète.
Merci. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Un mot pour conclure, M. Sangaré.
Merci, Aïcha, pour m'avoir invité de participer à cette émission. Je pense réellement qu'il est de mon devoir de dire que chaque citoyen a sa part de responsabilité dans la consolidation des acquis, dans la consolidation du potentiel floristique et faunique qui nous a été légué par nos parents. Le Mali, à l'indépendance, on avait 30 millions d'hectares. Aujourd'hui, on a moins de 2 millions d'hectares de forêt. Alors, c'est une interpellation. Chaque citoyen peut être garant et un acteur pour la préservation de ce patrimoine forestier et faunique.
Merci beaucoup, M. Tidjane Sangaré, directeur général de la Société de gestion des concessions forestières et fauniques de Tam Voyage. Il était l'invité de ce soir dans l'émission Fabudiren. Nous avons parlé du reboisement et comment entretenir les arbres. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter cette émission sur les plateformes Décidio Tamani. À la présentation, vous aviez Aïssata Diarra avec la complicité technique de Serundao, coordination Maria Maïga. Restez avec nous dans un instant, la version Bamananka de cette émission.